Bonjour Camille.
Bonjour.
La Chine est à nouveau montrée du doigt pour avoir fait arrêter un ressortissant étranger avec des arrière-pensées politiques.
C'est à lire en tout cas dans le Sydney Morning Herald. La Chine confirme qu'elle détient Yang Hengzhu, un écrivain australien d'origine chinoise et porté disparu depuis qu'il avait débarqué samedi à l'aéroport de Guangzhou. Ses proches, cités par le Guardian australien, accusent la police secrète chinoise qui détient donc Hengzhu d'agir avec des manières de terroriste. Yang Hengzhu, nous explique le journal, est très populaire en Australie pour ses romans d'espionnage et ses écrits en faveur de la démocratie en Chine. Des positions qu'il avait forcé, lui, le cadre du régime communiste, à quitter le pays pour demander et obtenir la naturalisation australienne. Il avait été prévenu des risques qu'il courait en allant rendre visite à sa famille restée en Chine, nous dit le New York Times. Et ces risques, ajoute le Washington Post, étaient encore renforcés par le contexte international de ces derniers mois. La Chine est déjà accusée, on le rappelle, par le Canada d'avoir fait mettre en prison arbitrairement deux de ses ressortissants en représailles après l'arrestation à Vancouver au mois de décembre d'une dirigeante du groupe Huawei. Huawei, c'est le géant chinois des télécoms. Sa directrice financière a donc été arrêtée au Canada en vue d'une extradition vers les États-Unis qui l'accuse d'avoir contourné les sanctions américaines en Iran. Et justement, il y a deux jours de cela, les Américains ont formulé officiellement leur demande d'extradition. Le Canada a dit qu'il allait l'étudier et il s'est attiré pour cela les foudres de Pékin. C'est à ce moment précis donc qu'un ressortissant étranger, un nouveau, cette fois australien, se retrouve interpellé par la police chinoise. Le Washington Post, comme les autres titres de la presse internationale qui se sont emparés du sujet, font le lien entre l'affaire Huawei et l'Australie, car le pays a rejeté récemment l'offre de la firme chinoise pour développer son réseau de téléphonie 5G, comme les États-Unis l'ont fait et comme le Canada s'apprêterait à le faire. Alors officiellement, nous dit le Sydney Morning Herald, les autorités australiennes refusent de faire le lien entre cette guerre froide de la 5G et l'arrestation de Yang Hengzhu. Mais nous dit encore le Herald, après le Canada, que l'Australie se retrouve aujourd'hui prise malgré elle dans les tensions américano-chinoises. C'est le pire des cauchemars diplomatiques qui devient réalité pour le gouvernement de Canberra.
Alors, l'autre dossier brûlant, Camille, c'est la crise politique au Venezuela. On a suivi ça toute la nuit. Cette crise, elle met désormais toute l'Amérique latine à l'heure des choix.
Le choix, soutenir le président autoproclamé, le chef de l'opposition Juan Guaido, ou bien refuser de s'affirmer contre le président élu Nicolas Maduro. Le dilemme traverse depuis hier, c'est vrai, tout le continent et c'est El País dans sa version sud-américaine qui ausculte pour nous cette ligne de fracture. En reconnaissant d'abord qu'il y a une grande majorité de pays, une douzaine, qui ont clairement pris parti pour Juan Guaido contre Nicolas Maduro. Le plus visible, c'est bien sûr le Brésil de Jair Bolsonaro, premier hier à suivre la ligne définie par Donald Trump depuis la Maison Blanche. Mais comme nous le rappelle la Folha de São Paulo, la position brésilienne était arrêtée depuis le début de la semaine, depuis que Brasilia avait refusé de reconnaître comme légitime la réélection de Maduro. Hier, Bolsonaro et son vice-président ont dit qu'ils soutenaient la transition démocratique au Venezuela, mais qu'ils n'envisageaient pas pour autant, au cas où le régime chaviste ferait arrêter Guaido, de participer à une intervention militaire. Derrière les États-Unis et le Brésil, il y a eu un effet boule de neige hier, note El País, de pays d'Amérique du Sud qui ont fait bloc autour de Juan Guaido et de l'opposition vénézuélienne. Et cette quasi-unanimité, elle met en lumière la position des autres. La Bolivie d'Evo Morales et Cuba, la communiste, qui réitère leur soutien à Nicolas Maduro, sans grande surprise. Et plus intéressant encore, l'isolement de deux pays, le Mexique et l'Uruguay. Tous deux refusent de reconnaître Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Le laxisme du président mexicain López Obrador, analyse El País, sa réticence à condamner le dictateur Maduro offre un ballon d'oxygène à ce dernier. Mais depuis Mexico, le quotidien La Jornada tente d'expliquer la doctrine mexicaine et uruguayenne et expliquer que ce n'est pas un soutien inconditionnel à Maduro, sinon un rappel que ce dernier a été réélu tout récemment par son peuple dans une élection légitime selon le droit international. En fait, Mexico et Montevideo plaident pour une médiation internationale au Venezuela pour rechercher une solution pacifique. Un appel à la désescalade dans les deux camps pour éviter une explosion de violence. En bref, la position en brin attentiste, il faut bien le dire, des Européens et de l'ONU.
Bon, on va vous faire suivre cela. Et est-ce que l'on réussit à trouver sur Internet de la presse vénézuélienne, Camille ?
On trouve El Nacional, principalement le journal d'opposition qui n'est plus imprimé en papier depuis quelques semaines, mais qui se trouve en ligne exclusivement maintenant, oui.
Et alors, est-ce que, par exemple, cette nuit, les informations les plus récentes sur la situation au Venezuela ont été été reproduite sur le site de ce journal.
Bien sûr, c'est un site qu'on cite régulièrement dans la revue de presse internationale et qui continue à pouvoir travailler dans le contexte actuel.
Oui. Bon, en tout cas, c'est une situation que l'on va vous faire suivre sur France Culture au fur et à mesure que d'autres informations nous arriveront. On termine par le continent africain, lequel rend hommage à un très grand nom de l'afro-jazz décédé hier.
Ce grand nom, c'est celui d'Oliver Mtukudzi. Il était connu à travers toute l'Afrique centrale et australe, une légende née au Zimbabwe il y a 66 ans et décédé donc à l'hôpital de Harare ce mercredi. Depuis, dans la presse comme sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient de Nairobi à Banjul, de Bujumbura à Pretoria. Partout où la musique de Tuku a fait danser et a fait penser des générations de jeunes Africains. Le journal sud-africain The Mail and Guardian suspend un instant la chronique qu'il réalise ces dernières semaines de la très forte contestation sociale qui agite le Zimbabwe pour saluer donc la mémoire du musicien le plus acclamé de ce pays. Que ce soit sous son propre nom, Oliver Mtukudzi, ou avec son groupe, les Black Spirits, ce guitare héros africain était un maître du son, nous dit The Mail and Guardian. Ces derniers albums de folk en langue shona du Zimbabwe résonnaient aussi, cette fois c'est la radio kenyane Hot 96 FM qui l'affirme, comme un appel à la population de son pays pour s'unir, pour prendre son destin en main. La consonance politique était plus forte encore dans son dernier opus sorti en mars, 3 mois après le départ du pouvoir du dictateur zimbabwéen Robert Mugabe. La musique d'Oliver Mtukudzi a influencé des générations d'artistes africains. Il y a fort à parier aussi qu'elle résonne particulièrement avec le soulèvement populaire qui agite donc le Zimbabwe depuis un peu plus d'une semaine maintenant. À ce titre, il sera intéressant de voir dans les prochaines heures si les autorités conspuées du pays accèdent ou non aux demandes exprimées depuis hier de faire de Tuku un héros national.
C'est très beau, effectivement. Oliver Mtukudzi, merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.